Série de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'émission que voici est le septième volet d'un entretien en 12 parties de l'écrivain Roger Caillois au micro de Janine Worms en 1970. Roger Caillois livre ici plusieurs éléments biographiques qui éclairent son œuvre, son initiation tardive à la littérature, qui a des conséquences sur sa conception du langage, ses passions de jeunesse pour le marxisme et le surréalisme, avant son émancipation de ce qu'il nommera lui-même plus tard des illusions.
Roger Caillois, au cours d'une première série d'émissions, nous avons vaguement parcouru à pas de géant, je dois dire, toute la partie, on pourrait dire scientifique de votre œuvre, c'est-à-dire tout ce qui avait trait à la sociologie, au mimétisme animal, à bien des choses de cette espèce.
Bon, scientifique me paraît peut-être un mot un peu gros. Disons que ce sont des livres écrits dans un esprit ou avec des ambitions scientifiques, mais il n'y a nullement le côté méticuleux, le côté patient d'un travail de science. Ce sont des livres plutôt scientifiques d'intention que de réalisation scientifique.
Mais c'est ce qui me frappe d'ailleurs chez vous, c'est cette double appartenance. D'un côté, vous avez des rigueurs de savant, et d'autre part, vous avez à l'endroit de l'écriture, tout spécialement, une véritable sensibilité d'écrivain, une sensibilité à l'endroit de la langue.
J'ai une passion de la forme, une passion un peu superstitieuse d'ailleurs. Et peut-être ça vient de mon enfance. J'ai été initié assez tardivement à la littérature. Je suis d'origine paysanne, j'ai vécu mes premières années à la campagne, et je n'y avait pas de livres à cette époque-là, c'était pendant les premières années de la Première Guerre mondiale, vous voyez comme ça vous remet loin. Et à la campagne, je n'avais pas de livres à ma disposition, et la découverte des livres est venue beaucoup plus tard. J'en ai parlé d'ailleurs, non pas à propos de moi, mais au fond, c'était de moi qu'il s'agissait, c'était mon cas que je transposais. C'est dans un article qui s'appelle « Le catéchisme et l'almanach ». Eh bien, je crois que pour des centaines de milliers de jeunes Français qui ont partagé ce destin d'être nés à la campagne, ce sont en effet les deux seuls livres qu'ils ont connus pendant très longtemps. Le catéchisme qui servait à les préparer à la première communion. La campagne, tout le monde, ou bien catholique ou bien protestant. En tout cas, on est tenu de faire sa première communion, ne fût-ce que pour des raisons sociales. Et même, non seulement j'ai fait ma première communion, mais j'ai même été fiancé, parce qu'on fiance les gens très jeunes, on les fiance à 6 ou à 7 ans. Et les fiançailles, qui n'entraînent rien d'ailleurs, se marquent par le fait qu'avec la jeune fille qui vous est destinée, elle vous est destinée parce que ce sont des gens très petits et qu'il faut marier les gens dont les gens sont proches. Eh bien, on leur fait donner le pain béni le même dimanche, et en tenant la petite fille par la main, on offre le pain béni. Pour les livres, j'avais le catéchisme, donc, qui m'apprenait les règles de la morale, et puis l'almanach, qui était l'almanach achète, c'est-à-dire l'almanach où on vous apprend toutes sortes de choses, à plier du papier, ou à reconnaître les étoiles suivant les jours, des tours de physique amusante, ou toute espèce de choses comme cela, et puis des récits, des contes, mais très peu. Alors on vit dans le monde, et puis surtout, on indique, puisque c'est un almanach à destination agricole, on vous explique aussi à reconnaître les nuages et puis à quel moment on doit semer et à quel moment on doit récolter telle ou telle plante ou telle ou telle céréale. Alors très très longtemps pour moi, je n'ai connu la littérature que par le catéchisme et l'almanach. Et puis tout de même autre chose, un hebdomadaire qui s'appelait le Pèlerin, que ma grand-mère recevait et que je dévorais. Alors d'une part, j'ai appris à lire très tard. J'ai vécu dans ce monde qui, il faut dire littérairement, était un peu restreint. Et quand j'étais au lycée de Reims ensuite, et au lycée de Reims, alors, il y avait à ce moment-là des gens qui étaient des gens un peu plus âgés que moi.
Oui. Était-il normal à ce moment-là que les enfants de la campagne, comme vous, aillent au lycée à la ville?
Non, parce que j'ai obtenu une bourse. J'ai obtenu une bourse, et alors mon père était installé à la fin de la guerre, il était installé à Reims. Il avait quitté la campagne d'ailleurs depuis un très jeune âge, mais ma grand-mère est restée compagnarde. Par exemple, elle n'a jamais vu la mer.
et elle n'a été qu'une fois au théâtre où elle a vu Faust, le Faust de Gounod, au théâtre de Reims d'ailleurs, et ça l'a beaucoup frappée. Et quand mon père après allait au théâtre, et elle pensait que toutes les pièces étaient sur le modèle de Faust, et elle lui demandait qu'est-ce que faisait Méphistophélès dans la pièce, parce qu'elle ne concevait pas de pièce où il n'y avait pas le diable, n'est-ce pas? Et je crois que ça m'a également frappé, cela. Et au lycée de Reims, quand j'ai, plus tard, j'ai rencontré des gens, comme je vous le disais, et qui étaient alors là très, très littéraires. C'est ceux qui ont formé ensuite le groupe de Le Grand Jeu, c'est-à-dire Roger Gilbert Lecomte, qui habitait en face de chez moi, René Daumal et Roger Vaillant. Ils n'avaient que quelques années de plus que moi, mais à cet âge, c'était énorme. Et comme Roger Gilbert Lecomte habitait en face de moi, et que je n'avais pas trop de goût pour la littérature, mais je préférais beaucoup faire mes devoirs de mathématiques, c'était ça qui m'intéressait. Alors je faisais mes devoirs de mathématiques, et puis je traversais la rue pour qu'ils m'aident à ce qu'on appelait alors des rédactions. Et de faire des rédactions, et c'est peut-être cela qui m'a donné le goût du style, je cherchais ce que j'appelais le beau mot, le mot décoratif, n'est-ce pas? Le mot rare, n'est-ce pas? Même je l'ai cherché dans le dictionnaire. Et quand j'avais trouvé un mot qui me semblait particulièrement intéressant ou particulièrement frappant, je m'arrangeais pour l'introduire dans la rédaction. Ça me semble une entrée dans la littérature absolument déplorable. Maintenant, je fuis les beaux mots comme la peste.
Oui, car je vous rappelle fort bien, vous m'avez donné une leçon de littérature que je n'oublierai jamais. Vous m'avez cité Valéry, je crois, et vous m'avez dit de deux mots, M-O-T-S, il faut toujours choisir le moindre.
Il faut toujours choisir le moindre. Et même maintenant, enfin depuis même pas mal d'années, ça m'est venu quand j'ai vu cette intrusion de mots savants dans la littérature, de mots philosophiques de la littérature. Je m'interdis absolument d'employer des mots qui ont plus de 4 syllabes.
Vous le dites la préface de Case d'un échiquier, je crois.
Je le dis, je raconte ça dans la préface de Case d'un échiquier. Il me semble qu'un mot de 4 syllabes est toujours un mot menteur, un mot qui trompe. Les gens n'ont pas besoin de 4 syllabes pour expliquer une idée. Ou une idée ou une émotion.
Anticonstitutionnel ment essentiellement.
Par exemple.
On ne peut être que constitutionnel.
Mais il y a beaucoup d'autres mots dont j'imagine qu'un écrivain doit volontairement se priver.
Je partage tout à fait cet avis. Mais comment alors de ce goût pour les mathématiques en êtes-vous venu en dehors de ce goût pour le beau mot que vous disiez très joliment?
Il y avait les deux. Il y avait le goût pour le beau mot. À ce moment-là, je pensais qu'on faisait la littérature avec les mots. On ne l'a fait pas avec les mots, on l'a fait avec la grammaire, on l'a fait surtout avec la syntaxe.
Ce qui s'oublie de plus en plus de nos jours.
La syntaxe ne fait que s'appauvrir. Et non seulement la syntaxe, mais la ponctuation, l'emploi du point-virgule, par exemple, tend à disparaître, n'est-ce pas?
Où je déplore beaucoup.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est un grand mal, mais c'est significatif, en tout cas. Alors le fait qu'une syntaxe un peu...
Valérie Larbaud a écrit toute une page dessus, la disparition du point-virgule.
Et bien maintenant, c'est ainsi. Qui tente à disparaître. Mais enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Autant c'était chez moi un côté puéril, mais peut-être significatif de chercher le beau mot. Maintenant, ce que je chercherais plutôt, ce sont les combinaisons syntaxiques qui mettent le mot en valeur, n'est-ce pas? Plus tard, par exemple, j'avais la manie, mais ça c'était une manie de mon époque surréaliste où c'était très répandu, et c'est resté d'ailleurs chez quelques écrivains, de mettre des mots en italique. C'est pas pour donner la force au mot, pour le souligner, pour ainsi dire.
C'est une tricherie,
mais qui est tentante. C'est pas qui est tentante et qui est facile. Et c'est Georges Dumézil qui m'a dit une fois, on ne souligne pas un mot qu'on met en valeur. C'est une affaire de syntaxe. Voltaire n'a jamais souligné un mot.
Dumézil, un sociologue.
C'était aussi un styliste. Il faisait très grande attention. Il faisait très, très grande attention au style et il n'aimait pas que l'on trichât avec la grammaire et avec la syntaxe.
Est-ce l'étude de la structure des sociétés qui l'a amené à l'étude de la structure de la langue?
Je préfère penser que c'est le contraire.
Probablement.
En tout cas, je me suis toujours méfié de la littérature et de ce qui me semblait le comble de la littérature, de la poésie, parce que je ne mettais que l'on s'exprime en prose. La prose étant pour moi d'ailleurs le mode exact de s'exprimer, parce que je cherchais l'exactitude, tandis que la poésie me semblait la fantaisie et la gratuité. Et par conséquent, j'avais une espèce presque d'allergie à son égard, ce qui ne m'empêchait pas de savoir une quantité de vers par cœur. Non pas que je les avais appris, mais je les retenais automatiquement quand je les lisais.
Que vous avez donc de la chance. Mais je crois que vous n'êtes pas venu tout droit quand même à cet intérêt pour la poésie. Vous avez formé avant la guerre avec Georges Bataille et Michel Léris le collège de sociologie.
L'aventure a été un peu plus compliquée avec quelques détours. J'ai préparé l'école normale supérieure et à ce moment-là, un journal du soir a fait une enquête sur les écrivains, sur les écrivains qui étaient préférés par les élèves qui préparaient les grandes écoles. Et c'est sur moi, que dans ma classe, que la charge de la réponse est tombée. Et alors, j'ai cité naturellement les écrivains qui étaient admirés par Roger Gilbert Le Gombe et par René Daumal, c'est-à-dire Rimbaud, Lautréamont et André Breton. Et alors André Breton a été si content de cet hommage, de cette reconnaissance inattendue de la part d'un très jeune garçon qu'il m'a convoqué et que j'ai été immédiatement introduit dans le groupe où je suis resté 2 ans. C'était en partie un malentendu parce que je croyais que le surréalisme était la destruction de la littérature et ça me plaisait beaucoup. Je n'avais pas remarqué à ce moment-là que c'était plutôt une métamorphose de la littérature et une littérature particulièrement littéraire, pour ainsi dire. Mais ça, je me suis trompé. Enfin, mais ça ne m'a pas fait de mal d'un autre côté.
Je voudrais une petite précision sur un point d'histoire. C'était donc avant votre entrée à l'école normale, cette rencontre avec Breton.
C'était avant mon entrée à l'école normale, oui. C'était l'année d'avant, exactement. C'était l'année d'avant et cela a duré. J'étais absolument conquis par le surréalisme, enfin, et aussi d'ailleurs par le marxisme. Si bien qu'on me reprochait que quand je parlais du manifeste comme d'une autorité, on ne savait jamais s'il s'agissait du manifeste du surréalisme ou du manifeste du communisme.
Et alors, votre rencontre avec Mauss et Duvézil que vous avez eue pour professeur?
Bien, c'était quand j'étais à l'école normale. Alors, je me suis spécialisé dans la grammaire et la philologie. D'ailleurs, je suis resté très, très grammairien et même si je voulais pas trop me vanter en m'intéressant plutôt aux problèmes de linguistique générale qu'aux problèmes de correction purement morphologique ou purement grammaticale. Et là, il m'a intéressé à ce moment-là, c'était l'étude de l'imagination, ce que j'ai développé un peu de tous côtés, un peu aveuglément, un peu en tâtonnant d'une façon très diverse.
Non, pas aveuglément, il y a des lignes de force très marquées dans votre recherche.
J'espère que c'est comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans l'éventail que m'offraient les études universitaires, il y avait certainement quelque chose qui m'intéressait d'abord, c'était la sociologie des religions, et c'est comme cela que j'ai été amené à travailler, d'une part avec Georges Dumézil, et d'autre part avec Marcel Mauss, qui ont certainement marqué beaucoup le développement ultérieur de mes recherches. Et quittant le surréalisme, je suis tombé très normalement sur ceux qui étaient le plus proche du surréalisme, qui l'avaient quitté, ou qui s'étaient tenus à l'écart tout en étant fascinés par le mouvement, c'est-à-dire Michel Léris et Georges Bataille. Et c'est en effet avec eux que nous avons fondé tous les trois ce qu'on a appelé le collège de sociologie, qui était mixte entre la sociologie et l'action.
C'est-à-dire que c'était déjà un premier pont, puisque vous parlez de pont dans Case de l'Échiquier, entre ce qui est une science humaine, la sociologie, et avec
un désir d'action dans la société, désir d'action qui était absolument chimérique, et dont la guerre a montré la vanité, hélas, d'une façon totale.
C'était Roger Caillois au micro de Janine Worms, 7e volet d'un entretien en 12 parties, première diffusion de cette émission le 29 juin 1970. À suivre.